2050.
Tu penses que ce serait bien,
2050, toi? #2050 le podcast, c'est votre rendez-vous. Chaque semaine, une rencontre, un regard, une vision tournée vers l'avenir. En plus de 20 minutes, mais en moins de 30, c'est 2050 qui se dessine au fil d'une discussion. #2050, c'est parti. Bonjour Angélique.
Bonjour Rebecca.
Merci de me recevoir dans ton bureau. Mmh. Nous sommes à l'Université de Rouen. Tu es économiste.
Oui, économiste. Donc ici même à l'Université de Rouen, plus précisément on va dire à la faculté d'économie. Mmh. Une section très, très importante puisque un certain nombre de laboratoires de recherche s'y trouvent, dont mon laboratoire de recherche, qui est donc le CREAM, mm-hmm. qui est le centre de recherche appliqué à l'économie et à la mondialisation.
D'accord. Voilà. Justement, quels sont, toi, tes sujets de prédilection, ceux sur lesquels tu publies, tu travailles?
Alors moi, je travaille principalement sur tout ce qui touche les politiques publiques, mm-hmm. et plus précisément, comment on peut traiter les politiques publiques dans le cadre d'une économie appliquée. Donc, à travers ça, j'amène des mathématiques dans les perspectives de recherche sur les évolutions possibles dans l'utilité ou pas des politiques. Mmh. Donc, je travaille beaucoup sur les questions d'évaluation. Donc, je travaille beaucoup sur le consentement à payer, sur la monétarisation, sur la gouvernance multiniveau. Et puis sur des champs bien identifiés comme les politiques sociales, environnementales et puis aussi tout ce qui touche les services d'intérêt général.
D'accord. Alors justement, aujourd'hui ensemble, on va parler d'économie, mm-hmm. en se projetant dans le futur forcément. Et tu as choisi une expression assez forte dont on va discuter aujourd'hui. Cette expression est la suivante: le capitalisme robotique. Alors, pour commencer, j'aimerais que tu me définisses cette expression.
Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par le capitalisme? Déjà, c'est un terme que l'on connaît tous très bien dans, notre jargon de tous les jours, qui, en d'autres termes, est assez adapté à tout le monde parce qu'on le voit bien dans le monde du travail, mais aussi dans notre façon de vivre tous les jours, de consommer, de regarder tout ce qui touche les marchés financiers, etc. Donc on ne parle que de capitalisme dont on sait très bien naît le capital. Mmh. Donc le capital, c'est bien sûr la richesse que l'on a. Et puis,
richesse monétaire.
Hein. Monétaire et plus précisément, tout simplement, la recherche perpétuelle de pouvoir s'enrichir. Mmh. Donc le capitalisme, ce qui est aussi la particularité, c'est qu'il se positionne plutôt dans la sphère privée que dans la sphère publique. Donc quand on entend sphère privée dans le capitalisme, ce sont principalement, comme vous le disiez si bien, donc, le rapport à la monnaie, donc à l'argent, mais aussi aux entreprises. Et l'intervention, voire les autorités publiques, n'y interviennent très très peu. Aussi, si elles sont vraiment présentes, c'est parce qu'elles sont là pour réguler, pour retrouver un peu de justice. Sinon, dans le capitalisme, on n'est vraiment que dans la recherche
de profit et
d'enrichissement.
Alors, dans cette expression, donc, il y a cette notion de capitalisme, mmh. le capital, la recherche du profit, et robotique.
On le voit bien aussi de plus en plus que les robots font partie de notre quotidien. On en est parfois conscient, parfois inconscient. Mmh.
C'est vrai qu'on parle de robots, mais il y a aussi tout le pendant de l'automatisation.
De l'intelligence artificielle. Mmh. Donc on est dans un domaine qu'on peut aujourd'hui mieux qualifier, qui est le numérique. Mais il est vrai que le robot, depuis de nombreuses années, s'immisce de plus en plus dans la vie quotidienne des hommes. Et donc, ça interroge aujourd'hui notre fonctionnement et savoir si ce n'est pas plutôt les robots qui vont prendre la main sur l'homme et que l'homme va plutôt devenir soumis au robot. Mmh. Et il est vrai que de plus en plus, on se rend compte que quand on prend sa voiture, on est de plus en plus dicté par des robots. sans s'en rendre compte, quand on a un GPS, quand on...
Oui, qui nous fait choisir un itinéraire.
Quand on a des systèmes de sécurisation dans la voiture, pour nous prévenir des risques éventuels dans notre trajet. Donc ça, ce sont des faisceaux d'indices qui prouvent que de plus en plus, le robot va s'immiscer dans la vie de l'homme et que l'homme pourra peut-être ne plus s'en passer.
Mmh, ouais. Alors, ce capitalisme robotique, on va le détailler tel que tu l'imagines en 2050, peut-être poussé à son paroxysme, on verra ça dans quelques minutes. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui, en 2017, à imaginer cette expression, à te poser cette question de est-ce qu'on va vers l'avènement d'un capitalisme robotique, lié à tous les outils d'objets connectés, intelligence artificielle, etc.
Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les robots qui sont développés, ils favorisent la richesse au sein même des entreprises. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est important de prendre en compte aujourd'hui, en 2017. C'est-à-dire que si on crée des robots, c'est à la fois pour créer de la richesse et avec, malheureusement, des effets pervers qui fait que si on est dans le monde du travail, c'est beaucoup moins de travail qui va être proposé. Et beaucoup plus des robots qui vont devenir de plus en plus performants, de plus en plus en capacité de créer de la richesse, au détriment de l'homme qui risque de voir son fonctionnement complètement changé en 2050.
Alors, en même temps, lorsque dans une entreprise, l'automatisation, les robots prennent la place d'emplois, souvent ce sont des emplois peut-être qui sont peu qualifiés, ou des emplois pénibles. On entend aussi que toute l'automatisation, la robotisation dans les entreprises, ça peut aussi créer des nouveaux emplois qui sont plus qualifiés justement sur de la maintenance, du pilotage de systèmes. Donc comment tu places le curseur?
Donc il y aura toujours des hommes pour créer des robots, pour les rendre plus performants, pour innover, parce que ce n'est pas les robots eux-mêmes qui vont se créer, à part là si on rentre dans la science-fiction.
Oui, après,
mais là, on aura toujours besoin des hommes pour créer ces robots, pour pouvoir les développer dans la vie quotidienne des hommes. Donc il y aura toujours de l'emploi qui sera créé pour eux. Si on est dans un champ vraiment extrême, en disant que le numérique, il n'y a plus que ça, ce qu'on ne souhaite pas, mais dans notre schéma actuel, on se dirige plutôt vers une troisième révolution qui se dit numérique. Donc on sera de plus en plus sur ce genre de fondement. Et donc de plus en plus, l'homme va créer donc ces robots. Et le risque, c'est que ces robots, de plus en plus, vont donc, comme je l'ai dit à plusieurs fois, donc s'immiscer dans la vie de l'homme. Mais l'homme va devenir peut-être un peu pervers, parce qu'il va peut-être que nos entreprises ou peut-être nos politiques utiliseront peut-être les robots en 2050 pour dicter le fonctionnement des hommes, pour les rendre beaucoup plus rentables. Parce que la richesse, elle ne se limitera pas qu'à enrichir une entreprise. Ces robots pourront être aidés aussi pour enrichir le PIB, pour enrichir, pour consommer tel produit, pour se soigner, pour devenir moins dans un assistanat particulier. Et donc, ces robots pourront être utilisés soit par la sphère privée et la sphère publique.
Pour faire du monitoring, du pilotage.
Du pilotage et du monitoring sur le fonctionnement de l'homme pour le rendre beaucoup plus rentable. Moins contestataire et beaucoup plus efficace et beaucoup plus axé à ce qu'on lui demande de faire pour dire on est dans la solidarité collective. Et la solidarité collective, c'est pas que dans un pan, mais qu'il y a bien du donnant-donnant. Et donc ces robots vont devoir dicter, vont pouvoir à un moment être un outil d'instrumentalisation pour la sphère publique et pour la sphère privée.
Alors justement, pour être encore plus concret dans cette vision qui est assez pessimiste, faut le reconnaître, qu'est-ce que toutes les deux, là, quand on a un peu plus de 30 ans, dans ce capitalisme robotique, à quoi pourraient ressembler nos journées? Ça serait quoi concrètement au quotidien?
Eh bien, on pourrait imaginer que une personne se lève donc le matin, elle puisse tout simplement rentrer dans une pièce où il a donc un miroir avec un certain nombre d'algorithmes qui lui disent qu'est-ce qu'il doit faire dans la journée. Mmh. Parce que cette personne a un certain profil particulier qui va permettre au robot, en fonction de ce que peut attendre la sphère privée et la sphère publique par rapport à cette notion même de rentabilité, de richesse, mmh. eh bien, qu'est-ce que cette personne-là va devoir fournir à la société, alors soit la société du capitalisme ou la société du public, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fournisse dans la journée pour être à la fois rentable et d'être productif. Alors on peut, au-delà de rentrer dans sa cuisine et d'avoir sa machine à café qui va se mettre en route toute seule parce qu'elle aura été programmée et qu'elle saura qu'il lui faut donc un café avec une mousse de lait. Et puis, on peut même imaginer qu'on lui dise comment il doit être s'habiller aujourd'hui, que son animal a été nourri, etc. Eh bien, c'est de pouvoir, le dicter sur ce qu'il doit faire donc, sur
donc
la journée.
C'est vraiment un croisement entre intelligence artificielle, big data, tout ça mouliné et qui nous donne un pilotage pour être productif, optimiser notre productivité pour la société. C'est telle tenue, telle alimentation, tel trajet.
Et donc l'idée, ça serait que cette personne-là, elle aurait donc un profil déterminé par rapport à certains critères que la sphère publique ou la sphère privée aura déterminé. C'est-à-dire, vous gagnez tant, votre ménage est constitué de tant de personnes, vous avez tel rythme de vie, vous avez, vous êtes en situation soit de travail, soit vous êtes demandeur d'emploi, soit vous avez envie tout simplement de changer de travail. Donc c'est qu'il y ait un profil type qui soit déterminé, qui soit réactualisé en fonction des situations chaque jour, et qu'en fonction de la journée, eh bien, la personne puisse savoir combien elle peut apporter au PIB aujourd'hui. On peut imaginer, vous gagnez tant. Il faut impérativement qu'aujourd'hui, votre travail, votre production vous rapporte, 1% du PIB. Vous avez aujourd'hui tant de revenus. Votre situation ne vous permet pas de consommer tel produit parce que votre situation est un peu critique actuellement. Donc, on vous demande donc d'aller consommer tel produit. On peut aussi imaginer que, compte tenu de votre situation, il faut impérativement que vous ayez postulé à tel emploi qui vous est proposé aujourd'hui.
Oui, d'accord. Oui,
voilà. Et que cet emploi-là, c'est pour nous important parce que ça vous correspond. Voilà. Et on peut aussi imaginer que, compte tenu de la situation économique au niveau national, par exemple, le robot dit à cette personne-là, il faut impérativement que vous consommiez tel produit, car nous risquons d'être dans une situation
de surproduction
et qu'il faut réguler cette consommation. Et donc, c'est-à-dire que le robot, tous les matins, devra donner la feuille de route de la journée de la personne.
Ouais. Alors ça, c'est un asservissement total. Tout à l'heure, on disait qu'on n'était pas dans la science-fiction. En même temps, dans ce que tu dis, je vois un petit bout de Matrix, je vois un peu de la série Black Mirror.
Du 1-0, 1-0, point quand on ne répond pas.
Et donc, on serait
là. C'est-à-dire que la journée de l'homme, de 2050, dans la sphère économique, c'est une personne, qui aura sa feuille de route sur des probabilités.
Ouais. Donc c'est un asservissement total de l'homme par l'intelligence artificielle, les big data, etc.
Voilà.
Et puis aussi par les mathématiques, parce que tu disais tout à l'heure en te présentant que tu travaillais sur comment on intègre les mathématiques sur les enjeux d'évaluation
publique. Oui, parce qu'on peut imaginer que la personne, le matin, quand le robot, en fonction de son profil, donc qui seront déterminés par un certain nombre de variables, on les confronte à d'autres, à des variables, donc...
certaines sont macro, d'autres...
Donc il y a les variables indépendantes et les variables dépendantes. Donc les variables indépendantes, il faut les confronter à une variable dépendante pour savoir Est-ce que cette variable-là, elle va être eh bien, significative par rapport à un certain nombre de variables indépendantes, c'est-à-dire son revenu, si on est un homme ou une femme, si
on est en bonne santé,
combien de personnes constituent sa famille, etc.
Donc, dans ce 2050-là, il nous reste plus beaucoup d'humanité quand même.
Il nous reste plus beaucoup d'humanité parce que le risque, c'est que cette façon de procéder qui va permettre d'un côté, qui permettrait d'un côté à la sphère publique et à la sphère privée de pouvoir eh bien, mieux connaître et d'instrumentaliser ses citoyens, eh bien, le risque, c'est aussi de faire perdre le lien social, toute perspective d'immédiateté,
de liberté
et puis aussi le côté complètement imprévisible de la vie.
Ouais. En fait, on fait Angélique pour éviter ce futur ultra pessimiste. Parce que si toi qui es économiste, qui travaille au quotidien, qui échange avec des chercheurs, là, tout à l'heure tu m'as fait un peu visiter les couloirs, il y a plein de chercheurs à tes côtés. Si tu imagines ça, c'est que tu sens des frémissements qui vont sur ce chemin.
Oui, parce que moi, je, en tant qu'économiste, j'ai eu l'occasion pendant une année d'aller sur Paris, de regarder un peu, comme le ferait un sociologue, comment les gens réagissent, comment les gens se comportent. Et on voit bien qu'aujourd'hui, rien que d'être toujours connecté à son téléphone est aujourd'hui un échappatoire, mais peut-être aussi pour la personne se rassurer. On est moins contraint, on est plus protégé, on le voit bien, les personnes discutent plus par mail que par téléphone directement. On voit bien dans le comportement
de
consommation que les personnes aiment aujourd'hui acheter une voiture beaucoup plus technologique, avec beaucoup plus d'options. Il y a aussi, on voit bien...
Finalement, on va vers un certain asservissement.
Oui, c'est-à-dire que...
On prend volontairement ce chemin.
Je pense qu'on prend volontairement ce chemin. L'homme est peut-être fatigué. Et donc, il a peut-être besoin d'être encadré. Il a peut-être besoin d'être vu différemment. Et je pense que... Et le risque, c'est qu'il va s'autodétruire. C'est-à-dire, il a tellement envie d'être accompagné, il a tellement envie d'être pris en charge, parce qu'il est peut-être aussi fatigué à travers ces différentes révolutions économiques qui ont eu
les crises
et la difficulté qu'on rencontre tous les jours, sociale, dans le quotidien. Eh bien, les personnes, de plus en plus... vont vers ce qui va pouvoir les servir à tenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on rentre dans une voiture et qu'on nous offre toutes les options possibles, et si on peut la conduire jusqu'à là où on veut aller...
Et bientôt, on ne la conduira plus.
Et bien, pour beaucoup, beaucoup d'êtres humains, c'est une facilité et aussi un soulagement.
Ouais. Alors, justement, pour remettre... Parce que finalement, là, on a cette fameuse main invisible qui sera accompagnée par une deuxième
D'Adam
main invisible.
Smith.
Voilà, deuxième main qui se réserve.
Qui disait que le marché pouvait se réguler que lui-même et qu'il n'avait pas besoin de l'intervention de l'État pour qu'on régule le marché.
Voilà. Donc cette main invisible qui serre la main à une autre main invisible qui est celle du numérique, des algorithmes, etc. Comment on fait pour remettre l'économie au service de l'homme ? Parce que finalement, c'est peut-être ça la clé pour éviter ce futur-là.
Eh bien, on a quelques années devant nous pour arriver jusqu'en 2050. C'est aussi se poser la question de la place de l'homme et des citoyens dans notre société. Est-ce qu'il faut que l'homme ne soit qu'un consommateur ou est-ce qu'on lui donne la possibilité d'être acteur? Et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être rendu aussi les citoyens trop consommateurs, trop individualistes. Et donc aujourd'hui, s'ils préfèrent discuter avec un robot, c'est parce qu'il y a des éléments, des facteurs qui ont fait que discuter avec une autre personne ou dans un cadre collectif, ça lui semble aujourd'hui trop compliqué. Voilà. Et donc, il faut rendre le citoyen beaucoup plus acteur. Moi, je travaille sur des travaux où on demande de plus en plus dans l'évaluation des politiques publiques, est-ce que les citoyens puissent à un moment être complètement intégrées dans le parcours de l'évaluation et non pas qu'à un stade, mais à tous les stades. Et, mais ça fait peur parce qu'on sait bien que dans le champ de la sphère publique, si on traite l'évaluation des politiques publiques, avec la notion de rentabilité des politiques, si on veut juger si, c'est, si une politique est utile ou pas, eh bien, tout l'enjeu d'avoir eh bien, le consentement à payer des citoyens est une perspective intéressante. Sauf que soit on a trop peur de ce qui va être dit par les citoyens, soit il y a des enjeux énormes parce que aujourd'hui, on ne peut pas traiter les politiques publiques que sur un pan de la population, parce que si aujourd'hui ce pan de la population refuse une politique, on risque de laisser un autre pan de la population sur le côté de la route. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'on soit très innovant dans la manière d'aborder le numérique et la robotisation. On pense que ça peut être une bonne porte d'entrée, mais avec cette précaution à ce que l'homme reste toujours maître du robot. Même si on sait que le robot aujourd'hui, c'est une belle perspective de richesse parce qu'on est dans cette troisième révolution numérique, mais il faut que l'homme reste maître.
C'est-à-dire que l'homme... Quand tu dis l'homme, ce n'est pas quelques puissants ou des grands chefs d'entreprise
voilà, qui prennent la main.
C'est l'humain, l'humanité.
L'humain, et puis de ne pas dépasser certains cadres et certains seuils. Le robot ne devra jamais prendre la place de l'homme. Et aujourd'hui, il faut se donner des garde-fous. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ce qu'on ne dépasse pas, entre guillemets, les bornes pour rendre le robot le plus performant possible et qu'il soit, lui, au-dessus de l'homme.
Est-ce que toi, tu sens que c'est justement ces garde-fous
n'existent pas aujourd'hui. Non, parce qu'il y a tellement l'envie d'innover, il y a tellement l'envie de créer, même si certains économistes disent que même en innovant dans ce champ-là, ça ne produit pas toujours autant et ça ne crée pas plus d'emplois. Eh bien, il faut faire donc très attention à ce que l'homme ne perd pas pied dans cette production et qu'au contraire, qu'il se sert de cette nouvelle révolution numérique pour trouver d'autres manières de créer des emplois. Et l'homme, lui, il a besoin de pouvoir assurer son bien-être, son existence, et de prendre conscience que demain, les robots risquent, entre guillemets, de le manger. Et donc, c'est-à-dire que là, on a tant d'années pour que l'homme soit toujours maître de cette évolution et de cette innovation.
Alors, il faudrait peut-être aussi que l'économie ne soit pas qu'à faire de mathématiques, de probabilités, de statistiques, mais aussi une économie qui soit, alors je ne sais pas quelles sont les expressions consacrées, mais en tout cas, quelque part entre la sociologie, l'économie, même l'anthropologie, pour que la dimension, les facteurs humains soient pris en compte.
On peut parler d'économie collaborative, on peut parler de gouvernance collaborative, on peut parler d'interaction entre l'homme et les robots, et la sphère publique et la sphère privée. Donc il y a plusieurs façons de prendre conscience que l'homme, c'est lui qui est au cœur de l'économie, mais ce n'est pas l'économie qui est au cœur de l'homme. Voilà.
Alors, j'ai amené des petites choses, des pièces, et une carte bleue, qui sont peut-être symboliques aujourd'hui, en 2017, de ce capitalisme. Et bien, le fait que la citoyenneté passe par une carte d'électeur, sans doute, une carte bleue, sans doute.
Et une carte Visa.
Une carte Visa, voilà.
Et ben, on pourrait imaginer le matin, quand la personne se lèvera, elle puisse rentrer cette carte qui l'aura suivie la journée d'avant et qu'il lui aura recréé son profil actualisé dans la nuit et qu'il rentre ça dans la machine et qu'elle lui dise qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse dans la journée. En fonction du PIB, en fonction des produits qu'il doit consommer, le travail qu'il doit chercher. On peut même imaginer, et même c'est un peu pessimiste, mais que le robot lui dise aujourd'hui dans votre travail, vous devez être performant dans tel et tel dossier, sinon vous risquez éventuellement d'être moins noté, vous avez tel objectif aujourd'hui à répondre. Mais entre deux, n'oubliez pas d'aller chercher vos enfants à 16h30 à l'école.
Et ces pièces de monnaie, la monnaie, est-ce qu'elle aura encore Les espèces sonnantes et trébuchantes auront-elles une place dans ce monde ultra pessimiste, je le redis,
voilà,
que tu nous as décrit, Angélique?
Bah, je pense qu'en 2050, ça n'existera peut-être plus.
Ouais.
Ce qui est paradoxal, c'est que les robots risquent de prendre le dessus. En 2050, les robots prendront le dessus, je reste persuadée. Et pourtant, à tout moment, la nature pourra reprendre ses droits.
Mmh.
Et ça ne sera pas l'homme qui reprendra ses droits, c'est la nature.
Ouais.
Mais l'homme aura tout perdu.
Mmh.
C'est-à-dire que le numérique doit être un complément, doit être une accessibilité, parce que c'est vrai que ça permet, dans des situations sociales, d'éviter l'isolement, d'éviter la précarité, de pouvoir faire évoluer les choses. Mais ça ne doit pas prendre le dessus sur les rencontres. Je ne veux surtout pas parler de méthique, mais les sites de rencontres, ils ont compris que le numérique, c'était la porte d'entrée, mais après, ils organisent des ateliers, ils organisent des choses. Et c'est aussi dans cet axe-là aussi qu'il faut continuer à aller. Voilà.
Alors, pour finir cette conversation, j'ai dit que je voudrais que tu formules un vœu.
Un vœu. Un vœu sur 2050. Moi, je dis que l'homme doit rester au centre de la Terre, voilà, et que l'économie doit être au service de l'homme, et que l'homme doit pouvoir prendre du temps aussi pour lui et être dans de bonnes conditions pour pouvoir vivre au quotidien. Donc l'économie doit l'aider, mais pas le soumettre.
D'accord. Ben merci beaucoup, Angélique, pour cette
conversation. Merci, Rebecca.
Cette vision est un peu glaçante,
voilà.
Mais en même temps, il faut aussi ça pour alerter,
éveiller
et puis engager les réflexions, les débats. Merci encore à toi.
Ben merci, Rebecca, de m'avoir laissé cette opportunité de m'exprimer sur ce capitalisme robotique qui, je pense, sera un sujet de plus en plus d'actualité.
C'est vrai.
Voilà.
Eh bien, cet épisode de #2050, le podcast, s'achève ainsi. On se retrouve évidemment très vite, dès la semaine prochaine, pour une nouvelle conversation. Et d'ici là, soyons toujours curieux.